Merci beaucoup. C'est une joie d'être avec vous ce matin, malgré le fait que, en jugeant par le nombre de gens, vous avez hâte que notre cher pasteur revienne. Je suis là pour vous accompagner ce matin. Est-ce que ça va bien avec le micro? Tout est beau? Donc, on va commencer avec un temps de prière. Notre Dieu, c'est avec joie que nous voulons explorer cette épître de Philippiens qui partage comment Paul est enjoué et veut que son Église, ton Église, continue à persévérer dans les bonnes choses que tu as commencées en eux. Et je prie, Seigneur, de nous guider dans ta vérité, de nous préserver d'erreurs et de nous permettre que ton Esprit soit avec nous. Amen. Amen. Permettez-moi de monter un petit peu, pour empêcher que je me penche. Alors, explorons un peu l'historique des Philippiens, mais avant de commencer, on va tout simplement lire les premiers versets en commençant avec Philippiens au chapitre 1, verset 1. Qui dit comme suit. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs, irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Alors, un peu de contexte. Dans les années 350 avant Jésus-Christ, il y a un roi de Macédoine qui se nomme Philippe. Il a unifié le royaume du nord de la Grèce et il a conquis une ville. Il conquiert une ville qui s'appelle Philippe d'après son nom. C'est Philippe le second de Macédoine. Vous le connaîtrez sans doute d'après son fils Alexandre le Grand qui a conquis une grande part du monde. Par la suite, le royaume grec devient un gouvernement romain. Et le gouvernement romain, lui, il se forme après une bataille notable qu'il y a. Vous connaissez l'empereur César qui est mis à mort par les gouverneurs. Et puis, il y a une bataille civile qui se crée entre Marc-Antoine, Octave, contre Brutus et Gaius en 40 avant Jésus-Christ. Quand la moitié de l'armée romaine perd la bataille, eh bien, ils perdent aussi leurs biens, donc leurs terrains qui sont en Italie ne leur appartiennent plus. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne des terres où la bataille a eu lieu, c'est-à-dire dans la plaine de Philippe. Ça devient donc une colonie romaine. Et puis, la majorité des gens qui étaient là étaient des fils ou des filles, des ex-militaires qui avaient été dans cette bataille. Ils avaient certains droits et privilèges. Ils étaient, par exemple, exemptés de taxes. Et puis, ils avaient le droit de marchander leur terrain, ainsi de suite. Donc, ils avaient plusieurs privilèges. Et le fait d'être romain, C'était considéré comme un droit civique important à cet endroit-là parce que c'était en Grèce, c'était en Macédoine. Par exemple, on avait les libertés qui s'appelaient libertas, l'autonomie gouvernementale, immunitas, pas de paiement de tribut à l'empereur, et le droit de ius italicum, ou le droit italien, où on avait les mêmes droits que les Italiens, les mêmes coutumes, la même langue, la même monnaie. C'est pour ça qu'on se réfère à Philippe un peu comme une Rome miniature. C'était vraiment une colonie. Et on voit que quand Paul s'adresse aux Philippiens, il essaie premièrement de leur dire qu'ils sont des citoyens de Dieu, d'une terre qui n'est pas romaine, mais premièrement qu'ils appartiennent à cette citoyenneté divine et qu'ensuite ils sont romains. Et ça va jouer dans l'histoire qu'on lit dans Actes, qu'on a lu ce matin aussi, quand Paul et Silas se font emprisonner. Donc, je ne sais pas si on a la photo ici, dans les diapositives, mais la ville de Philippe existe encore de nos jours, bien que c'est une ville plutôt abandonnée, mais ressemblait à cela. Juste pour vous donner une idée, c'est vraiment un endroit réel avec des gens réels qui ont vécu là. Et puis, à gauche, on a un forum. Vous voyez les colonnes qui s'étendent, il y a comme un champ. C'est là où on vendait des marchandises. Et sans doute que Paul aurait été évangélisé à cet endroit-là. Il aurait connu ces places-là. Juste au nord du forum nord-est, en regardant la photo, en traversant la rue, la voie, il y avait la prison où Paul est resté. Et puis, il y a une voie principale de marchandage qui allait de l'est vers l'ouest à Rome, qu'on appelait la Via Egnatia. Et dans le fond, c'était une voie importante de commerce, et puis ça donnait une importance à la ville en tant que telle. Et puis, à droite, on a le théâtre grec, qui avait été bâti du temps des rois macédoniens et qui est rénové par les Romains. Donc voilà l'ensemble du lieu où se déroule notre histoire dans Actes. La première fois que Paul rencontre les Philippiens, c'est dans Actes. On a lu Actes 16. C'est une visite de Paul et de Silas dans leur second voyage missionnaire. Et le disciple Timothée se joint à la mission. Le fait que Timothée se joigne à Paul, c'est un signe de la provision de Dieu, parce que Timothée, il est écrit qu'il avait un parent grec. Et juste après que Timothée se joint à Paul, ensuite Dieu se manifeste à Paul dans un rêve, puis il y a un Macédonien qui dit: « Viens nous aider, on a besoin d'aide. » Donc, il s'embarque. Je ne sais pas si la carte se trouve juste après. Il s'embarque de la péninsule qu'on ne voit pas ici, mais la péninsule de la Turquie. Et ils vont au nord, puis ils se rendent à Néapolis, qui est une ville qui existe encore aujourd'hui. C'est une ville portuaire. Dans Actes 16, au verset 9 à 11, pardon. Oui, c'est ça. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. Néapolis, c'est une ville qui existe encore aujourd'hui et la ville s'appelle Kavala. C'est une ville grecque. Et ensuite, vous faites une demi-journée de marche, puis vous vous rendez à Philippe, qui est la ville juste au nord de la côte. Quand Paul et Silas se rendent à Philippe, ils cherchent un endroit où il se trouverait une synagogue, parce que c'était l'habitude de Paul d'aller évangéliser dans la synagogue pour dire aux Juifs: votre Messie est arrivé, c'est Jésus-Christ. Mais vu que à Philippe, c'était surtout grec et romain, il n'y avait même pas assez de gens pour former une synagogue en ce temps-là. On raconte que ça prenait une majorité de 10 hommes juifs pour former une synagogue. Donc, ils trouvent un lieu où vous avez entendu qu'il y avait de la prière et il y a des femmes dévotes qui s'assemblent près de la rivière pour aller prier. La première femme qui est convertie à Philippe et qui fera partie de l'Église venait de Thyatire, qui est une ville qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle aujourd'hui Akhisar en Turquie. où l'on fait principalement des tapis. Mais dans ce temps-là, c'était une teinture de luxe que d'avoir du pourpre. Parce que le pourpre, il faut extraire la couleur à partir de dizaines de milliers de petits mollusques, des escargots de mer. Et puis, ça implique beaucoup de travail et de ressources. Donc, vous pouvez imaginer que, étant dans une colonie romaine où les gens les mieux fortunés et les dirigeants politiques voulaient se parer de beaux vêtements, il y avait un marchandage de pourpre. Mais c'était pour ceux qui étaient aisés. Puis, on voit que Lydia a accueilli ces deux hommes, Pierre et Silas, dans sa maison. Donc, elle était probablement prosélyte, prosélyte qui veut dire convertie au judaïsme, mais qu'elle n'était pas juive. Et on trouve encore aujourd'hui une pierre qui est inscrite avec le marchandage de pourpre qui est mentionné, qui dit que c'était une profession dans ce temps-là qui existait à Philippe. Après ça, Pierre et Silas vont évangéliser dans la ville, après le sabbat. Et puis, il y a une servante qui les trouve et qui dit derrière eux, « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu Très-Haut, ils vous annoncent les voies du salut. » Au début, ça devait être bien, hein? Quelqu'un qui annonce que vous dites l'Évangile, on doit se sentir très heureux, tu sais, comme il y a même Satan qui dit qu'on annonce l'Évangile, on va-tu aller bien aujourd'hui? Mais là, ça se fait le lendemain, tu sais, elle crie encore, puis là, elle a la voix rauque qui dit, « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu Très-Haut, ils vous annoncent la voie du salut, puisqu'elle est en train de crier toute la journée. » Là, le lendemain encore, finalement, Paul en peut plus. Puis, il va... Est-ce que j'ai perdu le micro? Parce que je parlais trop fort. Puis, il va dire au mauvais esprit de sortir de cette jeune femme. Mais la religion des Philippiens était très diversifiée. Ils adoraient des dieux qui étaient des dieux ancestraux, des dieux grecs qui étaient basés sur la mythologie, comme l'Odyssée, par exemple, des choses du genre. On voit encore aujourd'hui des inscriptions sur les parois des rochers avec des gens qui venaient adorer. Puis c'était un peu une religion faite à votre sauce. Puis une des choses qu'on veut savoir dans la religion, c'est à quoi va ressembler le futur. Puis il y avait en effet beaucoup de satanisme dans le sens où on essaie de prédire l'avenir et on en faisait de l'argent. Mais quand les hommes qui avaient comme servante cette jeune femme voient qu'ils perdent leur source de revenus, bien là, ils sont extrêmement fâchés contre Paul et Silas qui veulent changer les traditions qui se font dans ce lieu-là. Puis, ils les battent de verge, ils les jettent en prison. Pendant la nuit, tandis que Paul et Silas sont en train de chanter et d'adorer Dieu, Dieu secoue la montagne et les chaînes se délient et tout le monde est rendu libre dans la prison de circuler. Le geôlier, qui est l'homme qui est chargé de garder les gens dans la prison, il se réveille et puis quand Paul entend le geôlier, il dit « N'aie pas peur, tout le monde est là ». Le geôlier entre puis il dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Puis c'est comme ça que se fait la conversion d'un autre chrétien de Philippe, le geôlier. Après ça, ils sont remis en liberté. Mais c'est à cause du fait qu'ils sont citoyens romains. Quand on disait qu'on était citoyens romains, on parlait le latin, qui est la langue italienne. Puis sans doute que Paul, quand il a commencé à parler en latin à ces gens qui trouvaient important d'être romains, il les a surpris. Puis il n'avait pas le droit de battre de verge quelqu'un sans l'avoir d'abord sentencé. Donc ils ont dit, là, faites pas trop de bruit, parlez-en pas trop, là, on va vous relâcher. Paul s'en va, il encourage les chrétiens dans la maison de Lydie, et il s'en va plus à l'ouest. Donc un très court passage pour débuter cette église à Philippe, mais guidés par Dieu, ils parviennent néanmoins à démarrer une église à partir des fidèles que Dieu avait déjà mis en place à Philippe et qui priaient. Dans le contexte, la lettre est écrite à l'occasion de la réception d'un don que Paul a eu à Rome. Cette épître aux Philippiens est composé à la fin de la vie de Paul, dans les deux dernières années de sa vie. Il est mis en prison, puis il est forcé de demander un jugement de César. Donc, on l'amène à Rome. Et il est permis qu'il reste dans une maison, mais il est enchaîné avec un soldat romain qui le garde. Les Philippiens ont envoyé Épaphrodite, qui est mentionné deux fois dans Philippiens 2 au verset 25. Paul dit « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. » Puis il remercie, il dit dans Philippiens 4, 18, « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » On sent par le ton de Paul qu'il est extrêmement reconnaissant de la part que les Philippiens ont à le supporter. Et ça lui permet de louer une maison pendant 2 ans à Rome, tandis qu'il attend son jugement. Dans Actes 28, verset 16, Luc rapporte que, lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer en son particulier avec un soldat qui le gardait. Et pendant ce temps-là, Paul est encore en train d'évangéliser. Il n'a pas terminé sa vie, il n'est pas dans le découragement, mais il est continuellement en train de parler aux Juifs à qui il évangélise pendant une journée entière, qui l'emmène dans sa maison. Et puis, toute la maison de César le connaît aussi. Donc, la cour du roi, il réussit à trouver les moyens pour parler à des gens, même si lui, il est dans sa maison. Il a encore contact avec les gens de l'extérieur et il poursuit l'œuvre de Dieu. Donc voilà, nous avons fait le survol du contexte historique de l'Épître aux Philippiens. On va parler du premier verset qui commence la salutation au sein de l'Église. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Le fait que Paul se nomme Paul et Timothée, il mentionne qui était avec lui en ce temps-là, et ça met l'emphase sur le discipulat qu'il y a entre les chrétiens de l'Église en ce temps-là. Bien sûr, Jésus avait 12 disciples avec lui, et dans la pratique de son évangélisation et de la chrétienté, il enseignait par ses actions à d'autres chrétiens qui le suivaient comment faire. C'est la pratique que Paul continue, et c'est la pratique que nous devons continuer. En pensant à ça, ça m'a encouragé à voir comment, moi, appliquer le principe de discipulat dans ma vie, n'est-ce pas? Et qu'en préparant cette prédication, cet encouragement, j'ai été parler avec mon ami Étienne pour qu'on contribue ensemble puis qu'on apprenne l'un de l'autre. Et je pense que c'est important qu'on intègre ce principe de discipulat dans nos vies, de ne pas juste travailler seul, indépendant, mais d'avoir quelqu'un avec nous, peut-être de plus jeune ou plus âgé, qui peut nous guider et qui va être là pour nous mener dans la bonne direction. Paul dit ensuite qu'il est serviteur de Jésus-Christ. Et le mot « serviteur » dans le grec, avec lequel il écrit, se dit « douloi », c'est-à-dire littéralement « esclave ». Ce qu'on voit ici, c'est par le fait que Paul préfère se nommer « serviteur ». Il n'a pas à dire qu'il est apôtre. Il ne mentionne pas son apostolat. Puis ça nous souligne la nature d'amitié qu'a sa lettre. Le lien qu'il a avec les Philippiens fait en sorte qu'il préfère se nommer serviteur puisqu'il n'a pas de demande à leur faire, qu'il ne veut pas les reprendre, mais il veut tout simplement les encourager. Puis il se met à leur niveau. Dans le deuxième épître de Corinthiens, au chapitre 10, verset 2, Paul dit aux Corinthiens, « Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. » Paul ici n'est pas forcé d'user de hardiesse, mais au contraire, il approche l'Église de Philippe avec un grand amour et une grande affection. Puis n'est-ce pas que ça devrait être notre but devant nos anciens et nos pasteurs qui nous approchent pour ne pas nous corriger, mais pour nous encourager dans l'amour? Puis est-ce que nous, on a la même réputation que celle de l'Église des Philippiens qui permet à Paul de venir à eux comme serviteur? Par le fait aussi qu'ils appellent serviteur, Paul s'associe au même titre qui est considéré honorifique, qui est donné à Moïse, qui est donné à Amos, à Jérémie, à Daniel, serviteur de l'Éternel. C'est un honneur de servir Dieu, parce qu'il reconnaît qu'il est racheté par Dieu pour servir Dieu. 1 Corinthiens 6, des versets 19 à 20 nous disent: vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Le rachat avec lequel on est acheté, ça a coûté cher. Quand on prend les symboles du pain et du vin, ça nous rappelle le sang qui coule, le corps qui est déchiré de notre Seigneur qui a payé pour nous, puis nous a achetés comme des serviteurs de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, on disait bien sûr serviteur de Yahweh. C'était un appel élevé. C'est pas comme si on est à genoux devant un maître en train de pleurer en larmes. C'est un appel honorifique d'être serviteur. Mais même les rôles les plus élevés, comme les rôles d'apôtre que Paul avait, sont des rôles de service. Puis ça, il faut jamais l'oublier. On n'agit pas comme si on est en avant avec une notoriété qui nous encourage à empiéter les uns sur les autres. Mais non, on approche avec amour de nos frères qui sont chrétiens, puis on s'approche les uns des autres avec un esprit de service. Le fait que Paul s'appelle serviteur nous rappelle non seulement le fait qu'il est serviteur de l'Éternel et qu'il vient avec amitié, mais aussi que toute personne est esclave. Dans Lévitique, au chapitre 25, il y avait trois raisons qui sont mentionnées pour lesquelles on peut devenir esclave. Humainement parlant, c'était soit par la conquête, si Israël conquit un pays, par la naissance, si un enfant était né de parents esclaves, et puis finalement, pour payer une dette. On lit dans Lévitique 25, « Si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui y demeure. Il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. » Le péché dans lequel nous étions, c'est aussi un esclavage. Nous étions dans les liens du péché, nous dit Proverbe. Romains nous dit que nous étions captifs de la loi du péché. On était liés dans des chaînes qui nous rendent pécheurs. Et même pour celui qui se pense libre de pouvoir faire ce qu'il veut, qui ne donne aucune importance à ce que Dieu demande, il pense pouvoir se vautrer sans conséquence dans le péché misérable. Il est esclave. Il est esclave du prince de ce monde de ténèbres. Il ne voit pas que des chaînes sont attachées à ses mains et que ces chaînes vont jusqu'en enfer et qu'elle le lit et qu'à son pied est fermement ancré un boulet qui traîne derrière lui qui dit « Fils de Satan ». Le péché est un esclavage. Et puis comme Paul le dit, il se voit racheté de l'esclavage du péché pour devenir serviteur de Dieu. Puis comme on l'a lu dans Lévitique, quand Dieu amène quelqu'un dans son peuple, il ne l'emmène pas comme un esclave pour le fouetter, pour le mettre à mort, pour l'emmener à l'enfer. Il l'emmène à lui comme un mercenaire, comme un serviteur qui est payé. Dieu paye son peuple. C'est comme ça qu'il l'amène. Dieu veut donner à son peuple. Mais cette dette que nous avons envers Dieu, qui est la dette du sacrifice, de l'expiation de nos péchés ne peut pas être repayé. Et nous sommes au service de Dieu. C'est un sacrifice vivant qui est un parfum de bonne odeur et qui est un office raisonnable devant Dieu, comme nous dit Romains 12. Paul nous, et même Dieu nous demande pas d'être un sacrifice mort comme Jésus l'a été pour nous. Mais on peut être un sacrifice vivant en vivant pour Dieu. Et puis, on n'a pas la même habileté de racheter nos propres péchés. C'est Dieu qui le fait. Mais c'est quand même un culte raisonnable de se présenter devant Dieu comme étant des serviteurs, des douloi, des esclaves de Dieu. Ce n'est pas un mauvais esclavage, c'est un bon esclavage. Dieu nous appelle à un fardeau doux et léger, qui n'est pas comme la dure servitude en Égypte où les labeurs étaient intenses et où il n'y avait pas de temps de repos. Ce n'est pas une servitude qui mène à notre mort, comme Satan qui nous lie pour des chaînes qui nous amènent à l'enfer. Mais c'est un service comme celui d'un employé, comme celui qui vit dans une famille et qui est un mercenaire. Pensez à ceci. Marc 10, 30 et Luc 8, 8, si vous voulez vérifier, vous pourrez aller voir. Ils décrivent la vie pour Dieu comme ayant un retour de 100 fois plus. Il dit, je vous paie au centuple. Peut-être que vous avez une tâche pas trop importante dans l'Église. Peut-être, par exemple, mettons que vous faites le ménage. Vous ne trouvez pas que vous aimeriez faire le ménage. Peut-être que vous aimeriez faire quelque chose de plus important, je ne sais pas moi. Peut-être que vous aimez mieux faire partie de la chorale parce qu'ils chantent en avant et ils ont l'air plus spirituels. Le salaire minimum au Québec, c'est 15 $ multiplié par 100. C'est comme si vous étiez payé 1 500 $ par heure pour travailler pour Dieu. Votre travail pour Dieu, c'est jamais quelque chose de perdu. Puis ça a une valeur éternelle. Quand on investit, si on a un bon investissement, mettons qu'on a un retour de 10 % dans le marché boursier, et qu'on investit 10 000 $ la première année, on fait un autre 1 000 $ parce que c'est 10 % du 10 000, donc on se ramasse avec 11 000. La prochaine année d'ensuite, on fait 12 100. Ça augmente tranquillement comme ça. Mais avec Dieu, on a un investissement qui va durer pour l'éternité. On n'a pas un investissement qui va être perdu avec le temps et qu'on espère prendre une retraite éventuellement. Notre retraite, on l'apprend, c'est sûr, tout le monde l'apprend. Donc, Paul nous rappelle par le fait qu'il se nomme serviteur que toute personne est esclave. On peut être esclave pour Satan, mais on peut être serviteur de Dieu. Soyons serviteurs de Dieu. C'est de beaucoup le meilleur choix. Enfin, il va s'adresser à trois groupes de gens. Il va dire à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Qui sont les saints en Jésus-Christ? Eh bien, toute personne qui fait partie du peuple de Dieu est rendue saint. C'est un saint. Un saint, c'est qui? C'est une personne qui est mise à part. Et dans l'Ancien Testament, on a Israël qui préfigure un peuple saint. Dans Exode 19, au verset 6, nous lisons « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Et dans 1 Pierre, au chapitre 2, au verset 5 et au verset 9, on dit aux chrétiens « Et vous-même, comme des pierres vivantes qui édifient l'Église, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréable à Dieu par Jésus-Christ. Vous, au verset 9, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » On voit ici que chaque croyant est appelé au sacerdoce de Dieu. Le sacerdoce, il y a un système lévitique qui mettait à part certaines personnes pour servir Dieu dans le temple. Et on voit ici que vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Vous êtes mis à part, comme Israël était mis à part avec des réglementations en son temps, pour servir de témoignage. Les chrétiens sont mis à part et marqués pour être saints et pour être le témoignage de la lumière de Dieu. Le sacrificateur, le principal sacrificateur qui se présentait une fois l'an, se présentait devant Dieu avec une grande préparation et beaucoup de crainte et de tremblement. Il ne pouvait qu'aller une seule fois invoquer Dieu pour son peuple dans le Saint des Saints où se trouvait l'Arche de l'Alliance. Il allait verser du sang sur l'Arche de l'Alliance et prier pour son peuple à Dieu. Mais nous, aujourd'hui, il nous est dit que nous pouvons nous approcher de Dieu sans crainte, parce que Dieu nous permet la communion avec Jésus-Christ par le moyen de la foi. Le fait que nous sommes mis à part nous rappelle que nous sommes saints. Et notre appartenance nationale est à la race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont deux passeports ou deux citoyennetés? Est-ce que quelqu'un en a quelques-uns en arrière? Peut-être pas plusieurs. Mais même vous tous qui êtes Canadiens, je vous annonce que vous avez deux citoyennetés si vous êtes dans l'Église. Votre première citoyenneté, ce n'est pas canadien. C'est une race élue de Dieu. Ça, c'est votre vraie nationalité. Puis la nationalité canadienne, elle est un peu secondaire et très temporaire. Mais votre citoyenneté céleste, elle dure déjà. Votre nation a plus d'autorité que le pays du Canada. Votre roi est plus grand que le premier ministre. Votre roi, là, il donne des ordres au premier ministre. Il dit quoi faire. Puis, quand Dieu donne des ordres à M. Trudeau, il se grouille. L'armée qui est dans votre pays est une armée céleste. Puis, vous pouvez croire qu'elle est beaucoup plus puissante et beaucoup plus grande que l'armée du Canada. Les forces de l'ordre, les anges de Dieu, vous défendent et ils sont beaucoup plus puissants et autoritaires que les policiers qui nous gouvernent en ce moment. Votre pays est de beaucoup supérieur au pays du Canada. Puis c'est la même chose pour Philippe, même s'ils étaient une colonie romaine, une colonie importante. Leur première principauté, c'était celle d'en haut. Ce n'était pas une colonie romaine. Leur identité, c'est d'être saint. Qui est un saint? On l'a déjà dit, ça s'adresse à tous les chrétiens, que ce soit à Philippe ou que ce soit des saints de votre temps. Des fois, ça nous fait penser en les saints comme Lydie, la marchande de pourpre. On en a fait un saint, l'Église orthodoxe ou l'Église catholique, je ne sais pas. A décidé que, vu qu'elle avait fait un fait remarquable, on allait faire des statues pour elle, puis des églises, puis on allait la sacrer un saint. Puis là, on regarde ça comme, wow, c'est vraiment quelqu'un d'impressionnant. T'sais, c'est un saint, c'est quelqu'un de remarquable, d'important. Mais si je vous regarde, chacun d'entre vous, tu es un saint, tu es un saint, tu es une sainte, tu es une sainte. Il n'y a personne qui n'échappe à cette identité. Puis quand on réalise l'importance qu'on accorde à être saint, on comprend la signification réelle que toute décision qu'on fait doit être en concordance avec le fait que nous sommes des citoyens des cieux et que nous sommes saints. Est-ce qu'un saint ferait un tel choix? Est-ce qu'un saint irait dans une telle direction? Colossiens 4, 16 nous dit aussi que lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Donc, il y a un partage. Nous sommes liés, si on veut, au sein de l'Antiquité dont Philippe. On disait déjà dans ce temps-là, Paul disait, hey, quand je vous ai envoyé une lettre, échangez la lettre contre la lettre de l'autre église parce que j'ai aussi écrit des choses là-dedans que je veux que vous entendiez. Puis on suit l'exemple apostolique en prenant comme exemple pour nous guider les lettres de Paul jusqu'à aujourd'hui. Ils étaient applicables à plusieurs églises dans ce temps-là, et puis on les applique à nous aujourd'hui. Voilà pourquoi ça vaut la peine de connaître et d'étudier les épîtres comme celle de Philippiens. Donc, saint en Jésus-Christ, un peuple saint, le peuple saint de Dieu, le fait que nous sommes appelés saints nous identifie aussi avec tous les chrétiens. Et finalement, nous sommes saints à l'image de Christ, qui est notre chef. Hébreux 7, au verset 26, nous dit qu'il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. La parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Le fait que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, soit parfait et qu'il est parfait de toute éternité, qu'il est le sacrificateur qui peut expier nos péchés et payer notre dette, c'est la vision d'un Dieu parfait qui nous inspire. Il nous est dit qu'il était innocent. Être innocent, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas connaître. Jésus-Christ ne connaissait pas le mal. Il ne pensait pas au mal. Il est sans tache. Jésus n'avait aucun défaut de caractère. Il n'y a rien en lui qu'on pouvait reprendre. Il était séparé des pécheurs. C'est-à-dire, il suivait la bonne voie. Il suivait la voie du bien, celle que le Père mettait devant lui. Et finalement, il dit qu'il est plus élevé que les cieux. Jésus-Christ est d'une plus grande autorité que tous. C'est lui qui doit être servi. Si on le prend comme exemple, on voit que pour être saint comme lui, il convient de rester sans connaître le mal, de ne pas pratiquer les défauts de nos caractères, mais de les surmonter, de suivre la voie du bien en connaissant la parole de Dieu et finalement de suivre l'autorité de Christ. C'est parce que c'est lui qui doit être suivi. C'est Christ qui nous rend saints et c'est à lui, c'est son image que nous suivons. Bien sûr, ce n'est pas par nos forces. Nous ne sommes pas saints par nos actions. Il n'y a personne qui est complètement juste. Mais c'est par l'imputation, c'est-à-dire par le fait que Dieu est mort pour nous, que nous sommes rendus saints. Et nous pratiquons la sainteté non pas parce que nous sommes saints en nous-mêmes, mais parce que Dieu nous rend justes. Vous savez que vous êtes des saints. Et être un saint, ce n'est pas hors de l'ordinaire pour un chrétien, mais c'est l'ordinaire d'un chrétien. Éphésiens 5, 3 nous dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Il y a vraiment l'idée de quelque chose qui est convenable, d'un comportement qui va se différencier. L'impudicité, les façons de s'afficher sexuellement, l'immoralité sexuelle, le manque d'attachement au mariage, toutes ces choses ne conviennent pas à un saint. La cupidité, c'est la volonté de s'enrichir à tout prix, de vouloir faire le mal, de prendre des raccourcis. C'est quand on fait des achats, puis là, on nous demande « Payez-vous comptant ou crédit? » C'est comme « Ah, je paye crédit. » C'est l'air un peu pas si spécial, mais on sait ce que ça veut dire. C'est « Veux-tu payer les taxes ou non? » Puis, mais même ces petits motifs-là, sont des motifs de cupidité. On veut garder la richesse pour nous-mêmes au lieu de suivre le gouvernement qui nous dirige. Puis, ce n'est pas quelque chose qui convient à des saints. Nous sommes finalement saints en Jésus-Christ. C'est parce qu'il n'y a aucune autre façon de devenir saint. Il n'y a personne d'autre que vous pouvez prier. Il n'y a aucun sacrifice que vous pouvez faire. Il n'y a aucun pèlerinage que vous pouvez prendre. Il n'y a aucune lecture ou connaissance que vous pouvez avoir qui vous rendra saint, sauf par Jésus-Christ. Donc, Paul s'adresse à des saints dans le Seigneur. Il s'adresse à tous les chrétiens, Et il s'adresse spécifiquement aux évêques, que nous lisons juste plus tard dans le verset premier, aux évêques et aux diacres. Les évêques, c'est un nom grec qui s'appelle épiscopos. Ça signifie ceux qui ont des responsabilités de supervision. Ça veut dire surveillant. Ça veut dire d'avoir... C'était probablement un terme général, puis c'est devenu un office plus spécifique avec le temps. Nous, on dirait peut-être pasteur ou quelque chose du genre. Et il parle aussi aux diacres. Diakonos, c'est le terme qui veut dire serviteur. Et c'est ceux qui ont des responsabilités de service. Donc finalement, le point que Paul dit, c'est qu'il s'adresse à tous les membres, soit aux saints, soit à ceux qui ont des rôles comme des évêques ou des diacres, et qui forment tous le corps de Dieu dans l'Église locale qui est à Philippe. Bien sûr, pas tous les membres ont le même rôle. Donc, pas tout le monde est appelé diacre ou évêque. Mais tous les rôles sont nécessaires dans tous les rôles sont nécessaires au moment où vous avez les dons pour les faire. Dieu permettra que vous y participiez. L'appel au saint est une implication active. C'est pour cela qu'il parle aux évêques et aux diacres. Il n'appelle pas les gens à la tiédeur et il n'appelle pas les gens qui sont saints à être des chrétiens mondains, donc d'avoir une implication dissolue. Mais il appelle les chrétiens à avoir une implication active dans l'Église, que ce soit en forme de diaconat ou de direction de l'Église, ou que ce soit tout simplement de participation dans l'Église en tant que membre. Donc voilà ce qui est de la salutation de Paul. Ensuite, il va encourager dans la grâce et la paix. Et en fait, il va formuler sa prière pour les Philippiens. Il dit au verset 2 que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. La formule « la grâce et la paix » se trouve souvent au début de lettre comme une salutation. Dans Louis II spécifiquement, vous allez voir dans Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1er et 2e Thessaloniciens, Tite, Philémon, 1er et 2e Pierre et Apocalypse, la même salutation. C'est-à-dire que la grâce et la paix soient avec vous. La salutation est une combinaison d'une salutation traditionnelle et grecque. On disait « charon », c'est-à-dire « mes faveurs envers vous ». C'est comme dire « bonjour » aujourd'hui. C'était une salutation polie. Mais Paul veut amener l'Évangile. Puis il modifie le mot. Au lieu de dire « charon », il dit « grâce », c'est-à-dire « charis ». Parce qu'il veut parler de la grâce de Dieu. Et quand il dit « paix », ben, il utilise le mot hébreu qui veut dire « shalom ».« Shalom », c'est la salutation hébraïque qui veut dire « paix ». Donc, il va, en quelque sorte, christianiser cette salutation qui devient utilisée dans plusieurs des épîtres et qui parle de l'Évangile. Pourquoi? Parce que c'est un rappel du salut. La grâce et la paix sont des choses que nous ne perdrons jamais. Malgré toute épreuve, peut-être que vous n'aurez pas de grâce spéciale, que vous mènerez une vie ordinaire, et peut-être que quelqu'un va même être mis en prison ou mourir, peut-être pas ici, mais on prie souvent les mercredis soirs pour des gens qui sont chrétiens et qui sont persécutés pour l'Évangile. Eh bien, eux ne doivent pas sentir beaucoup de grâce et de paix de la part de Dieu dans leur vie quotidienne. Mais dans leur vie spirituelle, on a toujours la grâce et la paix de Dieu. Dieu a dit à Paul, « Ma grâce te suffit. » Parce que Dieu, il permet que nous ayons le salut et la patience de Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout entendement, est avec nous. Dieu n'est plus notre ennemi. Nous ne sommes pas en combat avec Dieu en brandissant le poing vers le ciel comme certains le font dans la Bible. mais on est rendu d'ennemis qu'on était des enfants de Dieu. Puis on est réconcilié. Cette réconciliation nous amène la paix de la conscience qui nous accusait du fardeau du péché. Nous sommes rendus amis de Dieu. Nous sommes de son côté, c'est lui qui nous défend. Ça nous parle des attributs de Dieu. L'attribut de la grâce. La grâce est une faveur qui est imméritée. C'est même plus que l'attribut de la miséricorde. Si on fait miséricorde à quelqu'un, on ne le punit pas pour quelque chose qu'il a fait. Mais la grâce, c'est non seulement que Dieu nous fait miséricorde, mais qu'il nous donne le pardon et un libre accès auprès de lui. C'est plus abondant. Et le Dieu de paix, nous avons avec nous dans Romains 16, au verset 20, nous lisons que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. C'est bizarre, hein, quand on lit ça, on n'a pas l'impression, en entendant que Dieu écrase Satan sous vos pieds, de lire de paix. Pourtant, il dit Dieu de paix. Mais c'est parce que votre Dieu de paix est avec nous. Et puis, il écrase vos ennemis et la mort et Satan pour vous donner la paix. Et cette caractéristique de grâce est encore reflétée en notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Donc Dieu non seulement nous protège de nos ennemis spirituels, mais il nous donne la grâce de pouvoir habiter avec lui. Après cet encouragement dans la grâce et dans la paix, Paul va finalement donner ses prières au sujet des saints. La première prière qu'il a, c'est une action de grâce. Au verset 3, nous lisons « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. » Il met, comme dans le modèle de prière de Jésus, il met ses actions de grâce en premier. C'est un modèle de prière que nous avons. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié. On mentionne l'adoration en premier. Après ça, on a la soumission à la volonté de Dieu dans la prière de Jésus, pardon. Les demandes pour les besoins, le pardon et la repentance, la protection et la délivrance, et finalement, la doxologie dans la prière modèle de Jésus-Christ. Ici, dans ce modèle de prière, Dieu veut refléter son amour aux Philippiens, et Paul va donner ses actions de grâce, puis il va en mentionner plusieurs, et par la suite, quelques requêtes qu'il a pour eux. L'ordre de sa prière est importante. Il s'approche de Dieu non seulement en demandant, mais premièrement comme étant reconnaissant envers Dieu de toutes les choses que Dieu lui donne. Puis c'est un modèle à suivre quand on prie d'être premièrement reconnaissant devant Dieu. Puis on ne prie pas Dieu en passant avec une formule magique pour forcer Dieu à force de parole ou si on dit « En Jésus-Christ, amen, là, ça va s'accomplir exactement comme on le veut ». On ne peut pas forcer Dieu. Premièrement, on s'approche devant lui de façon humble. Et la façon qu'on le fait, c'est en rendant grâce à Dieu pour ce qu'on reçoit. Rappelez-vous que Paul, en ce moment, il est emprisonné. Il est lié d'une chaîne avec un soldat romain en tout temps. Mais, dans l'Épître aux Philippiens, on n'a pas l'impression d'un gars qui est emprisonné dans la misère. On a l'impression de quelqu'un qui est toujours reconnaissant et qui est toujours heureux de rendre grâce à Dieu pour toutes les bonnes choses qu'il reçoit. Que ce soit une image qu'on va suivre, nous aussi, même dans nos moments difficiles, qu'on rende grâce à Dieu. Au verset 4, nous lisons « Ne cessant dans toutes mes prières pour vous. » Et donc, il ne cesse pas de prier. Et il prie pour les autres chrétiens. Comme on le dit dans Jacques 5, 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns avec les autres, les uns pour les autres. » Pardonnez-moi. C'est un commandement pour nous de prier les uns pour les autres. Puis, en étudiant ce texte, j'ai été convaincu par Dieu de prendre le bottin téléphonique et de prier pour chacun des membres de l'Église. Puis, je dois admettre que certaines fois, je connaissais le nom, mais je ne connaissais pas le visage de la personne. Puis, c'est une exhortation qui nous fait réaliser qu'il faut apprendre à se connaître pour prier les uns pour les autres. Quand on termine le culte, j'espère que vous vous parlez, vous apprenez à connaître vos besoins. Peut-être que vous dites salut à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Parce que la première étape pour prier les uns pour les autres, c'est de se connaître et de se parler les uns avec les autres. Si on ne se parle pas, comment est-ce qu'on va pouvoir prier? Donc, j'espère que quand vous sortez de la réunion, ce n'est pas le trafic vers la porte, puis qu'à une minute après le culte, tout le monde est parti, mais qu'on va prendre le temps pour communier ensemble. Il faut aussi partager nos besoins pour qu'on puisse prier les uns pour les autres. J'espère que vous êtes en mesure de recevoir les besoins et de soutenir vos frères et sœurs dans la prière. C'est un encouragement à persévérer pour ceux qui persévèrent déjà. Dieu avait mis une réunion de prière en bordure d'une rivière, et puis grâce à leur prière, il a permis que la première église fondée en Europe soit à Philippe. La prière est répondue. Dieu écoute. C'est un encouragement pour nous de prier. C'est un encouragement à ceux qui ne prient pas de commencer à le faire. Il y a beaucoup d'occasions qu'on a. On a une réunion du mercredi. On a tous les matins, il y a certains frères et sœurs qui se joignent à la réunion de prière. Une réunion de prière samedi matin, vous pouvez prier personnellement. Il a été souligné PrayerMate comme application. Comme je vous l'ai dit, il y a le bottin téléphonique. Il y a plein d'options pour être ou devenir des personnes dévouées et dévotes pour prier les uns aux autres. Donc, prenez garde à l'encouragement d'être comme Paul et de prier. Au verset 5, il dit de manifester dans sa prière ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Les Philippiens, dans ce contexte, avaient fait des dons à Paul. Et c'est un des buts de Philippiens de remercier. On dit, c'est un peu comme un rapport missionnaire. Si vous recevez une lettre après avoir envoyé un don, tu sais, vous dites, voici comment ça va, voici comment je prie pour vous, puis ainsi de suite, voici mes encouragements. Paul était fort encouragé par la participation active que les Philippiens avaient dans le chapitre 4, les versets 16 et 18. Il dit que vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. C'est un épître de joie et d'amour qu'il a à recevoir toutes les choses que Dieu avait prévues pour lui dans l'Église à Philippiens. Puis j'espère que dans votre cas aussi, vous êtes capable de supporter les autres et de leur donner cette même joie, votre part à l'Évangile, votre participation active, que ce soit dans les dons ou dans le soutien. Et il dit que leur participation est une démonstration de leur salut. C'est un fruit de leur part à l'Évangile. Ça donne confiance à Paul que Dieu terminera son œuvre en eux, l'œuvre du salut. Il les voit comme si l'Évangile avait pris sa pleine puissance en eux. L'Évangile est une puissance du salut pour quiconque croit. Et c'est aussi quelque chose qui a fait passer aux actes. C'est le zèle que donne la joie aux leaders spirituels et aux autres chrétiens. Il y a un effet d'entraînement, hein, de pouvoir encourager les autres, que ce soit dans les dons, dans la prière, dans tout ce qu'on peut donner et que Paul recevait. On s'entraîne les uns les autres dans une direction qui nous fait nous épanouir dans le salut de Dieu, dans la participation à l'Évangile. Verset 6, il dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » On voit la persuasion de Paul de par la participation des Philippiens. Il est convaincu qu'ils ont part à l'Évangile. Est-ce que vous, si on regardait à votre vie, on serait convaincu que vous avez part à l'Évangile, que vous avez une participation à l'Église, que vous encouragez les saints, que vous faites votre devoir? C'est ça l'exhortation que Paul donne et en fait l'encouragement de continuer dans cette même direction. Dans Apocalypse 22, au verset 11 à 14, nous lisons que celui qui est injuste commet encore l'injustice et que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste pratique encore la justice, que celui qui est saint soit sanctifié encore. Voici, je viens bientôt et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon que sera son œuvre. Paul encourage l'Église. Je suis persuadé que Dieu rendra parfaite votre œuvre, l'œuvre du salut qui est commencée en eux et qui se terminera par la résurrection. Et Dieu revient. Il revient pour les chrétiens et pour juger. Il donnera à chacun selon leur œuvre. Il n'oublie jamais. Faisons des œuvres qui produisent le bien et qui sont un encouragement pour les autres. Et on ne perdra jamais la récompense. Verset 7. « Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous tous qui participez à la même grâce que moi. » Il dit qu'il est littéralement dans les chaînes, dans les liens, parce qu'il est enchaîné à son garde. Et dans l'acte 28, on voit qu'ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonce le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. On voit dans la fin d'acte, exactement là à Rome où Paul écrit sa lettre aux Philippiens, comment il agissait dans sa vie quotidienne. Il appelle les Juifs, ils viennent chez lui, il leur parle toute la journée, puis il essaie de leur convaincre. Imaginez Paul qui est en train de parler, puis qui dit aux Juifs, aux dirigeants, « Non, non, dans le psaume 22, tu sais, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds, c'est Jésus qui était pendu au bois. » C'est sans doute qu'il mentionnait Isaïe 53, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Vous voyez, c'est notre Messie, il est mort pour nous, il est venu pour notre salut. C'est ça la cause principale qui était besoin qu'il vienne. Puis il essaie de convaincre toute la journée. C'est pas comme s'il essaie de rester là, « Ah, je vous l'ai dit, 5 minutes, puis je m'en vais, vous n'avez pas compris, vous êtes pas des chrétiens, vous ne serez jamais. » Non, il essaie de convaincre. Il y a un esprit de zèle qui est derrière lui. Toute la journée, il essaie de leur parler. Et même s'il est dans les chaînes, il n'y a rien qui l'empêche. C'est le zèle qu'il a dans son cœur, dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Avons-nous la même conviction que Paul, qui débat du matin jusqu'au soir tandis qu'il est en prison et qui parle aussi à la cour de César? Même en disant que tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César à la fin de sa lettre, les gens du roi même, de l'Empire romain, le plus grand empire dans ce temps-là, connaissaient l'Évangile. Au verset 8, « Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Dans la lettre de Paul, ici, on voit beaucoup d'encouragement et d'amour qu'il porte envers les Philippiens. Il n'a pas beaucoup à leur dire en termes de correction. Il dit tout simplement à Évodie et à Saint-Tiche d'être d'un même sentiment, mais il y a très peu de correction. Il parle pour les motiver, les encourager dans leur bonne conduite. Ça doit être une belle chose d'être un apôtre puis d'avoir de bonnes choses à écrire à ces chrétiens. Et est-ce que en tant qu'Église, nous sommes encourageants pour ceux qui nous dirigent, qui peuvent nous mener dans une direction qui est encourageante, qui n'a pas seulement des corrections puis des choses négatives à dire, mais surtout des positifs. Continuez dans la bonne direction. Vous êtes dans la bonne voie. Allez-y. Je prie pour vous, puis je suis encouragé, puis je vous tiens dans mon cœur. Donc, voilà les motifs que Paul mentionne dans ses actions de grâce. Ce qu'il fait dans ses prières, il rend des actions de grâce envers Dieu. Il a une prière continuelle pour l'Église, mais cessant dans toutes mes prières pour vous. Il a de la joie. Il manifeste sa joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. Il a un zèle pour l'Évangile dans sa prière. Je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Et finalement, il a un amour sincère pour l'Église. Que nos prières aient les mêmes motifs de reconnaissance. On voit des exemples apostoliques d'actions de grâce. Pratiquons les actions de grâce dans nos prières. Finalement, du verset 9 à 11, nous avons les requêtes que Paul mentionne. Il dit, au verset 9, « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » Le mot « amour », c'est le mot « agapé ». C'est un amour pratique. C'est pas exactement la même chose que le désir, c'est-à-dire d'être saisi par un sentiment de vouloir quelque chose ou quelqu'un. Mais c'est un amour qui s'applique. Aimer, en général, c'est facile. On pourrait dire « j'aime le monde », mais c'est juste les gens qui sont difficiles à endurer. Mais c'est pas un amour réel. L'amour réel, c'est un amour entre frères et sœurs dans l'Église personnelle. Le plus que les gens sont proches, des fois, le plus ils sont haïssables. On les trouve difficiles à aimer, mais ce n'est pas le cas pour un chrétien. Un amour qu'on a les uns pour les autres, c'est de regarder aux besoins des autres. Quelqu'un a dit, « Exercer ce type d'amour dans lequel nous mettons les autres avant nous-mêmes est si demandant que nous voulons instinctivement savoir quelles sont les limites de notre responsabilité. » La requête qu'on a eue envers Jésus pour dire « Qui est mon voisin ?» est réellement une requête pour de l'information qui limiterait notre responsabilité. C'est-à-dire, si c'est mon voisin, je dois l'aimer, sinon je peux laisser faire. Mais l'amour réel, c'est un amour sans limite. C'est comme l'amour de Dieu qui ne cesse de voir les besoins des gens et qui est un amour actif, qui même si les gens sont haïssables comme nous, nous étions haïssables, on a reçu l'amour de Dieu. Et ils demandent que cet amour croisse de plus en plus. Ils l'ont déjà, ils les encouragent à persévérer. Et c'est la marque d'un chrétien, une caractéristique d'avoir un amour qui grandit. Cet amour se pratique premièrement dans la connaissance. La connaissance, c'est quelque chose qui est une expérience personnelle. En sachant comment agir de plus en plus dans l'amour, on a l'expérience qu'on bâtit de savoir comment agir de façon correcte. Et l'intelligence, c'est-à-dire l'étude. Le mot qui est entendu ici, épignosis, veut dire des connaissances spirituelles avancées, des connaissances de Dieu, des connaissances religieuses, des connaissances spirituelles, des connaissances doctrinales. On a ici une pratique chrétienne balancée. D'une part, on a une connaissance pratique. Et d'autre part, on a des connaissances spirituelles, l'étude. Une pratique chrétienne balancée cherchera non seulement dans les actes, mais aussi dans la lecture, dans les notes, dans l'encouragement, dans l'exhortation à partager cet amour de Dieu avec les autres. Finalement, au verset 10, « Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. » L'amour sans discernement, ça peut mener à des erreurs. Mais l'amour avec discernement, on saura comment l'appliquer. Un commentateur a dit d'aimer, c'est d'avoir la motivation d'aider. Le discernement nous permet de voir le réel besoin. L'amour veut dire que nous avons compassion. Le discernement signifie que nous voyons la situation clairement et réalistement. Alors, nous pouvons approuver ce qui est excellent. Si on avait le discernement, nous éviterions les conflits dans l'Église parce qu'on saurait ce qui est bon et droit et on saurait mettre de l'importance sur ce qui vaut la peine et ce qui ne vaut pas la peine d'être argué. Ça oriente la connaissance, le discernement, oriente tout le monde vers le même but et va prioriser ce qui est important. Et ça nous empêche d'être une occasion de chute pour les autres. En pratiquant l'amour avec discernement, on ne va pas faire en sorte de faire quelque chose qui pourrait faire pécher un autre chrétien. mais on applique de la sagesse à notre approche, même si toutes choses sont permises, elles ne sont pas utiles. Et finalement, cet amour et ce discernement feront en sorte que vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Puis le mot « irréprochable » a quelque chose de très intéressant. Le mot « irréprochable » dans le grec original a pour sens « testé au four ». Puis la raison, c'est la fabrication de la poterie. Puis la poterie était faite, il y en avait deux sortes réellement. Il y avait des poteries bon marché qui servaient à un usage quotidien. Cette argile était plus épais. Puis quand on le mettait au four, bien, l'argile ne risquait pas de craquer. Mais si vous vouliez une poterie de bonne qualité ou de la statuaire, on utilisait une argile mince et claire qui pouvait être dispendieuse. Quand tu mets quelque chose de fragile au four, ça risque de craquer. Et puis, il y a certains qui étaient moins honnêtes qui bouchaient les trous avec de la cire. Puis, quand on bouchait les trous avec de la cire, ça paraissait beau. Mais si tu observes le vase ou la statuaire au soleil, tu vas voir par les reflets du soleil qu'il y a des faillements. Et puis, les marchands, pour dire que leur marchandises étaient de bonne qualité, disait « sin sira », c'est-à-dire « sans cire ». C'est de là que vient en réalité notre mot français « sincère ». Puis quand on dit « irréprochable », on veut dire « sincère », en toute honnêteté. Alors, quand on pratique l'amour de Dieu dans la connaissance et dans le discernement des choses meilleures, quand on discerne ce qui est bon, alors on n'a rien à cacher. Puis devant Dieu, on peut être irréprochable. Finalement, au verset 11, « Soyez remplis du fruit de la justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. » Dans nos prières, dans nos actions de grâce et dans nos demandes à Dieu, soyons remplis du fruit de justice en pratiquant l'exemple apostolique que nous avons. Soyons une Église qui est fervente et zélée pour l'Évangile, qui porte du fruit selon la bonté de Dieu qui nous est accordée. Et rappelons-nous que c'est le sacrifice de Dieu qui nous permet d'être saints et d'être des esclaves, mais pas des esclaves asservis, des esclaves rémunérés comme des employés qui pratiquent joyeusement le service de Dieu.